Le journal Yevin Winga.
C'est confirmé, Thomas Lubanga est bel et bien arrivé à la Cour pénale internationale à La Haye, le tout premier prisonnier congolais à cette cour, comparé d'ailleurs lundi. En attendant, l'épée de Damoclès pèse sur d'autres Congolais. Le procureur général de la CPI promet d'autres arrestations. Nous irons ensuite à Bounia, plus précisément au quartier Moussipela, fief du leader de l'Union des patriotes congolais, pour recueillir les réactions de la population. Dans ce journal, d'autres réactions également, celles de la MONUC et de Human Rights Watch. Et puis nous irons encore en Ituri pour cette fois parler de Peter Karim. Près de 200 hommes de ce chef rebelle ougandais sont signalés en territoire de Mahagi. Les FRDC s'organisent pour lutter contre les hommes du chef rebelle ougandais. Alerte à une grippe non encore identifiée à Yalombe au Maniema. Elle a déjà attaqué une trentaine de pygmées, dont deux morts. L'équipe des médecins dépêchés sur place pour enquête est aussi contaminée. Des précisions dans ce journal. La Cour pénale internationale est décidée à poursuivre toutes les personnalités congolaises inculpées de crimes contre l'humanité. Après l'arrestation de Thomas Lubanga, plusieurs autres personnes seront poursuivies pour même motif afin que justice soit rendue aux victimes de ces atrocités. C'est ce qui ressort de la téléconférence de presse tenue ce matin à La Haye par le procureur général de la CPI, téléconférence à laquelle ont participé aussi les journalistes congolais. Le Point avec Elie Kouté.
Selon le procureur général de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, cette arrestation constitue une avancée significative dans la procédure menée par la Cour pénale internationale. C'est en vue de lutter contre l'impunité dont jouissent les auteurs présumés des crimes de guerre et crimes contre l'humanité sur le territoire congolais. Toujours selon Luis Moreno Ocampo, la Cour pénale internationale poursuivra sa mission en initiant d'autres mandats d'arrêt à l'encontre d'autres personnes qui portent la plus grande responsabilité dans ces crimes imprescriptibles en RDC depuis juillet 2000. Il a précisé que c'est sans tenir compte ni de leur position officielle dans les institutions publiques ni de leur nationalité. Des enquêtes sont actuellement en cours. Elles déboucheront sur des requêtes d'autres mandats à l'encontre de certaines personnalités congolaises. La Cour pénale internationale entend avancer par étapes et le présent mandat se veut le premier d'une série d'autres mandats.
Nous le disions en ouverture de ce journal, Thomas Lubanga est bel et bien arrivé hier soir à La Haye. Selon le procureur adjoint chargé des poursuites au sein de la CPI, l'ancien leader de l'Union des patriotes congolais est en détention en attendant de comparaître lundi prochain devant la chambre préliminaire. Madame Satou Ben Souda, jointe au téléphone à La Haye par Emmanuel Imbanda Lokenga.
Il est bien arrivé hier soir et maintenant il est en détention.
Maintenant que Thomas Lubanga est à la Cour pénale internationale, comment ça va se passer par la suite?
Mais lundi, on va avoir la première procédure devant la chambre préliminaire de la Cour.
C'est-à-dire?
La chambre préliminaire pour faire avant le procès même. Pour assurer que Thomas Lubanga est en bon état, aussi pour assurer qu'il a reçu toute l'information pour se préparer le procès même.
Après Thomas Lubanga, qui est la prochaine cible?
Non, on peut pas dire maintenant, on peut pas dire. Mais en tout cas, nous sommes là-bas, nous sommes avec le RDC pour le longtemps.
Ce transfert de Thomas Lubanga à la Cour pénale internationale à La Haye suscite évidemment bien des réactions. Nous allons d'abord à Bounia, plus précisément au quartier Moussipela, fief de l'UPC. Ses habitants, vous allez l'entendre, condamnent ce transfert et se demandent d'ailleurs pourquoi seulement Thomas Lubanga et pas d'autres. Suivez leurs réactions.
Bon, personnellement, je vois qu'on n'a pas suivi d'abord la procédure. Donc il a fallu d'abord les pays puissent chercher d'abord l'autre ici, le Thomas ici. Et que maintenant, si on voulait faire la tradition, on pourrait demander d'abord la justice congolaise et pour le transmettre d'abord aux Pays-Bas.
Moi, je demande pourquoi on doit juger Thomas Lubanga et pas les autres. Parce que ce que Thomas Lubanga a fait, moi, je vois que c'est une défense légitime. Parce que ce n'est pas Thomas Lubanga qui a commencé à tuer. Il faut d'abord commencer par l'FNI et prendre Thomas Lubanga après. Parce que ce sont les lindes qui ont commencé à tuer. Et maintenant, on vient prendre d'abord Thomas Lubanga sans prendre les gens qui ont commencé à tuer. Là, en tout cas, il n'y a pas une réalité de tout ce qu'on a fait.
Pour moi, présentement, si ça concernait tout le monde, je serais très content. Mais malheureusement, ce qui me cœur épais, il n'y a que lui qu'on a déféré. Et pourtant, il y a toute une liste de gens qu'on devait passer devant la Cour suprême, je pense.
La MONUC, pour sa part, salue le transfert et l'inculpation par la Cour pénale internationale aux Pays-Bas de M. Thomas Lubanga. La MONUC estime que cette décision de la Cour pénale internationale est un premier pas en avant dans la lutte contre l'impunité en RD Congo, ainsi qu'un signal fort à l'endroit de tous ceux qui continuent à torturer, à piller ou à tuer des populations civiles innocentes partout en RDC. Cette décision de la Cour pénale internationale qui fait de M. Thomas Lubanga son premier prisonnier est plus que symbole et porteuse d'espoir au moment où la RDC entame la dernière ligne droite de sa longue et pénible période de transition, estime la mission onusienne. Nous allons boucler ce chapitre consacré à Thomas Lubanga avec cette réaction de Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits de l'homme estime que c'est un premier pas bienvenu vers la fin de l'impunité au Congo. Elle a annoncé dans un communiqué publié ce samedi. En Ituri, des mouvements des miliciens sont signalés. Près de 200 éléments de Peter Karim, chef rebelle ougandais, sont présents dans le territoire de Mahagi, selon plusieurs sources concordantes. L'armée nationale congolaise prend certaines mesures pour sécuriser cette contrée. Détail avec Askin Zigbia.
Selon le porte-parole de FRDC en Ituri, Charles Boyeka, il y a bel et bien la présence dans les territoires de Mahagi des éléments de Peter Karim, l'un des chefs de la milice de FNI. C'est ainsi que tout un bataillon de FRDC basé à Mahagi se déploie depuis une semaine à travers ce territoire. Ce sont des renforts pour traquer Peter Karim avec ses éléments. En effet, plus ou moins 200 miliciens ont été perçus il y a 3 jours dans la forêt située à 4 km de Amé, localité située à 12 km au sud-ouest de Nioka, où est basée une seule section de FRDC. Par ailleurs, le porte-parole militaire de la MONUC à Bounia confirme les échanges de tirs depuis mardi entre le FRDC et certains de ces miliciens FNI. Mais du côté des FRDC, un bilan factuel de ces affrontements reste difficile à vérifier. Car selon le porte-parole de FRDC en Ituri, il ne peut pas être en contact avec ses soldats opérant sur le terrain, faute de communication adéquate. Bounia, Askin Zigbia Kayoro, Radio Okapi.
Cap sur l'ouest de la RDC, la cité de Mwanda dans le Bas-Congo était paralysée ce matin par les activités de Bundu Dimayala et l'association des jeunes de Mwanda. Ils réclament entre autres la réhabilitation du tronçon Boma-Matadi de la nationale numéro 1 et aussi la mise à la disposition de 2 groupes électrogènes à la Sinelle Mwanda. Le point avec Nestor Bizi.
Tôt ce matin, les militants du parti Bundu Dimayala, les DM et les jeunes de Mwanda ont pris d'assaut tous les grands acteurs de la cité. Ils ont les autobus, les sociétés de la place, les autres véhicules et taxis ont été sommés de retourner chez eux. En ce moment, pas de marché, pas d'école, les magasins sont fermés, la vedette qui relie Boma Mwanda par le fleuve n'a quitté le port de Banana qu'à 10h30, près de 9h, comme d'habitude, avec à son bord moins de 10 passagers pour une vedette qui a capacité de 170 places. La sortie de la route Boma Mwanda est barricadée. Les manifestants ne se livrent à aucun acte de pillage ou de vandalisme parce qu'ils sont bien encadrés par la police. Les organisateurs de cette action exigent l'entretien de la route nationale numéro 1 sur les tronçons Boma Mwanda, l'installation à la semelle de 2 nouveaux groupes électrogènes promis par le directeur l'année passée et qui ne sont toujours pas arrivés. Et enfin, le départ de certains cadres de société pétrolière Perenco et d'une autre société Escoquine. Depuis la cité côtière de Mwanda, Nestor Bise pour la Radio 4.
Toujours dans le Bas-Congo, 7 navires mouillent sur le fleuve Congo au port de Boma et ce depuis plusieurs jours pour cause le manque d'espace au quai pour le déchargement. Ces navires attendent d'accoster au port international de Matadi de Boma, une correspondance de Danny Kinganzita.
7 navires sont en mouillage sur les eaux du fleuve Congo à Boma. Certains sont à leur 9e jour. Matadi Bridge en tête de liste. C'est la résultante de la vétusté de quai et équipement du port international de Matadi. Ces navires ne peuvent accoster aux installations portuaires de Matadi qu'après la fin complète de la manutention. Si le port international de Matadi hier était capable de recevoir 10 navires à la fois, aujourd'hui il n'en reçoit que 6. Selon le sous-directeur de l'Office national des transports port de Boma, Oumba Dimalanda, le navire au mouillage a engendré une augmentation de 150 euros aux frais de marchandises. Du côté des armateurs, ils ne semblent pas partager le même point de vue. Pour Nestor Mouemena, le président du conseil d'administration de l'ONATRA en mission de travail à Boma, l'approvisionnement de son office en engins de manutention assurera avec rapidité le déchargement et le chargement des navires dans les jours à venir. Boma, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Santé, des symptômes présentant des signes d'une grippe non encore identifiée font ravage à Yalombe, localité située à une centaine de kilomètres de la collectivité de Balanga, dans le territoire de Kailo, c'est Tomaniema. Cette grippe a déjà causé 2 morts dans ce village où vivent les pygmées. Une équipe de médecins dépêchés il y a 2 semaines par l'inspection provinciale de la santé pour aller enquêter sur cette situation et de retour de ce village, elle aussi contaminée, n'a pas pu faire le prélèvement ni maîtriser cette maladie qui a déjà attaqué plus de 30 pygmées. L'équipe contaminée est en quarantaine à l'hôpital général de référence de Kindu, dont le médecin chef de zone de Kailo, Masaka Lopepo Cyprien, sous protection, explique cette grippe. Il est au micro de Mamie Ali Lichibangu.
Nous revenons de Yaoundé. Nous avons été dans une mission d'investigation sur la suspicion d'une épidémie de grippe chez le peuple pygmée et leurs voisins. Les patients se présentent souvent avec une fièvre qui ne cède pas aux antipaludiques, une fièvre qui est intermittente et surtout ils ont une irritation de la gorge et ce sont des malades qui vous toussent assez sérieusement. Aussi, on peut voir un écoulement nasal pour certains malades. Voilà les quelques signes principaux que nous avons retrouvés chez la plupart des patients. C'est contagieux, se transmet par voie aérienne d'un homme à un autre, par des fluges. Quand on parle, on n'a pas pu faire les prélèvements. Et nous-mêmes, nous avons présenté certains signes en faveur de ce syndrome. Ce qui fait que même chez nous, on peut prélever. C'est pourquoi nous sommes en quarantaine pour surveillance et éventuellement pour un prélèvement.
Pour l'instant, c'est direction Nord Kivu, la station de surveillance volcanologique de Rumangabo, à 50 km au nord de Goma, est en arrêt depuis le samedi 11 mars dernier. Des bandits armés ont réussi à voler le grand panneau solaire qui alimentait en énergie électrique l'ensemble des matériels permettant l'enregistrement des tremblements de terre et donc la surveillance permanente des volcans Nyamulagira et Nyirangongo. La sentinelle de la station a même été blessée à la gorge, comme l'explique Jules Ngala Ouamona.
Outre le panneau solaire qui alimentait en énergie électrique les enregistreurs de mouvements sismiques ou des tremblements de terre, du matériel de terrain pour les chercheurs ainsi que des appareils de radio ont été également emportés. La station de Rumangabo est l'une des 6 stations de surveillance volcanologique que compte l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. Elle avait l'avantage d'être plus proche de 2 volcans, Nyamulagira et Nyiragongo, ce qui permettait une surveillance permanente et accrue de ces 2 volcans à la fois. Un responsable de l'OVG, le chercheur Kassere Kamainda, a déclaré ce samedi à Radio Okapi qu'il ne sait pas encore combien de temps il va falloir attendre pour remplacer le matériel volé et reprendre les activités de la station. La station sismographique de Rumangabo est en arrêt alors que le volcan Nyiragongo, situé à 30 km au nord de Goma, se trouve toujours dans sa phase pré-éruptive selon l'OVG. Et au même moment, son jumeau, le volcan Nyiragongo, situé à 25 km au nord de la ville, est toujours en activité. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
Nous ouvrons le chapitre des partis politiques à présent. La décision finale du collège des fondateurs du Rassemblement Congolais pour la démocratie sur le dossier Minembwe sera communiquée à une date ultérieure. C'est ce que vient de déclarer ce samedi à Kinshasa la presse, Dr Gertrude Kitembo, secrétaire permanent du collège des fondateurs du RCD. La médiation du président Mbeki, l'évolution enregistrée dans l'examen des entraves à la transition et la saisie par l'espace présidentiel sont autant des raisons qui ont milité en faveur de ce report, a-t-elle indiqué. Le mouvement populaire de la révolution fait privé, pour sa part, est en congrès depuis hier, vendredi, à la Foire internationale de Kinshasa. Ce congrès est celui de la Renaissance, a affirmé Catherine Nduziwambombo, présidente de ce parti politique. Renaissance à la surprise de ceux qui avaient cru à la mort du parti et des mobutistes après la disparition de Mobutu, a-t-elle indiqué dans son mot d'ouverture. Le point avec Nazaire Nkoko.
Ce congrès devra aboutir au rajeunissement et à la redynamisation des cadres porteurs d'une nouvelle vision de gestion de la société congolaise, a indiqué Catherine Douziwambombo. Les congressistes planchent sur le libéralisme économique comme doctrine en vue d'édifier une nation forte, indépendante, démocratique et prospère. Ils réfléchissent aussi sur l'établissement des valeurs morales fondées sur la probité, la solidarité, la discipline, l'intérêt général, bref, sur les règles de bonne gouvernance. Par ailleurs, ces assises se tenant à la veille des échéances électorales, les congressistes se sont appelés à choisir les candidats du parti aux différents mandats lors des prochaines élections. La présidente du parti leur a demandé de sélectionner les candidats qui pourront valablement aller à la bataille électorale et faire honneur au parti dans l'exercice de leur futur mandat. Est également attendu la production du programme du gouvernement de ce parti. Le congrès commencé vendredi se clôture ce dimanche, toujours à la Foire internationale de Kinshasa. C'est alors que l'opinion connaîtra les grandes résolutions qui vont sanctionner ces assises du MPR fait privé.
En Afrique, le leader de l'opposition zimbabwéenne a appelé à une résistance pacifique démocratique contre le régime du président Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai a lancé cet appel lors de l'inauguration ce samedi du congrès de sa faction au sein d'un parti très divisé.